Et on avait vu là comment l'histoire de Jonas avait commencé, comment Jonas avait réagi à cet appel que Dieu lui avait adressé d'aller annoncer sa parole dans la grande ville de Ninive et toutes les péripéties qui avaient suivi cet appel et surtout le refus de Jonas de répondre à cet appel. Il a pris le bateau, il s'est retrouvé jeté à la mer dans le ventre d'un grand poisson avant d'être rejeté sur le rivage. Donc c'est une histoire assez particulière. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou si vous en souvenez, si elle vous rappelle quelque chose, parce que je crois qu'elle a déjà été racontée ici. Mais c'est l'histoire d'une petite fille qui revient à l'école le lundi matin et puis elle était toute contente de raconter à son instituteur que la veille, le dimanche, au club des enfants, on lui avait raconté l'histoire de Jonas. Donc elle était heureuse de raconter ça à son instituteur, là, comment Jonas avait été avalé par une baleine. Et puis l'instituteur, qui n'était pas croyant, il a pris la petite fille un petit peu de haut, puis il a dit, tu sais, c'est impossible qu'une baleine puisse avaler un homme, parce que sa gorge est trop étroite, un homme ne pourrait pas rentrer dans la bouche d'une baleine et être avalé par une baleine. La petite fille a dit, si, si, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a expliqué hier. Et Jonas, il est entré dans le ventre de la baleine et l'instituteur, qui avait le détenteur du savoir, lui dit « Non, non, je t'assure, c'est impossible. » Alors, la petite fille, elle a dit « Bah, quand je serai au paradis, je demanderai à Jonas comment ça s'est passé. » Et puis l'instituteur, il dit « Et ouais, si Jonas, il n'est pas au paradis ?» La petite fille lui répond « Bah, c'est vous qui lui demanderez. » Donc c'est peut-être difficile de donner une explication à cette histoire. Comment est-ce que Jonas est rentré dans le ventre du grand poisson? Est-ce que c'était un requin, un cachalot? On avait vu la dernière fois, il y a d'autres explications qui sont données. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut retirer de ce texte. Et une des choses qui est vraiment marquante et touchante dans l'histoire de Jonas, c'est que le livre de Jonas, comme dans le reste de la Bible, on voit que c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui s'intéresse à Jonas, qui s'intéresse à nous. Dans le chapitre 1, on voit comment Dieu parle à Jonas. Dans le chapitre 2, c'est Jonas qui parle à Dieu quand il est dans le ventre du poisson. Et dans le chapitre 3, sur lequel on va se pencher ensemble ce matin, c'est Dieu qui parle par Jonas. Donc Dieu parle. Jonas repart en mission après toutes les péripéties auxquelles il a été confronté. Et ce que je voudrais voir avec vous en particulier, en nous penchant sur chaque verset de ce chapitre 3, c'est quels sont les éléments que nous pouvons tirer de ce texte qui nous permettent d'envisager la vie chrétienne et qui nous permettent d'envisager notre service, notre engagement, si nous vivons notre vie chrétienne de cette manière, de façon épanouissante. Je crois que la vie chrétienne, si on y pense bien, c'est reconnecter avec Dieu, c'est reconnecter avec celui qui est la source de la vie, qui est la source de la paix, qui est la source de la joie. Notre vie chrétienne, nous devrions l'envisager comme quelque chose d'épanouissant. On sait que dans la vie, il y a des choses douloureuses, il y a des choses difficiles. Mais lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons là les moyens de pouvoir d'avoir une vie épanouie. Et il y a quatre éléments en particulier qu'on peut retirer de l'histoire de Jonas. Et le premier élément sur lequel je voudrais qu'on se penche ensemble, c'est celui de la liberté. Jonas était dans le ventre du poisson, Jonas a été rejeté sur le rivage, sans doute sur le rivage du pays d'Israël. Et on peut supposer que c'est à Jérusalem qu'il va à nouveau entendre la voix de Dieu. Parce que l'histoire de Jonas ne s'arrête pas là. Il aurait pu vivre toute cette histoire incroyable. Il aurait pu prendre là des leçons pour lui de ce qui était arrivé. Mais Dieu va à nouveau appeler Jonas. Et c'est certainement à Jérusalem et peut-être même dans le temple de Jérusalem que Jonas a de nouveau entendu cet appel adressé par Dieu vers lui. Parce que quand il est dans le ventre du poisson, on l'a vu, là, il prie, et dans sa prière, il exprime l'espoir de revoir le temple et d'y apporter ses remerciements. Si on revient au chapitre 2 et au verset 5, Jonas dit, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Et on va un petit peu plus loin au chapitre, dans ce même chapitre, au verset 8, il dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, à de faux dieux, éloignent d'eux la compassion. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les promesses, les vœux que j'ai faits. le salut vient du Seigneur. Donc vous voyez que là, il cite le temple, et alors qu'il espérait dans son salut, il dit « je reviendrai dans le temple ». Donc on peut imaginer Jonas qui est dans le temple et puis qui entend à nouveau l'appel de Dieu. Et c'est intéressant de mettre les deux appels de Jonas en parallèle. Si on regarde l'appel tel qu'il est formulé alors que Jonas est revenu, c'est au chapitre 3, au verset 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ça, c'est le deuxième appel. Si on met ça en parallèle avec le premier appel qu'on trouve au début du chapitre 1, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Vous mettez les deux versets en parallèle, vous voyez qu'ils sont formulés pratiquement de la même manière. C'est comme si Dieu s'était adressé à Jonas avec juste quelques variantes, avec quasiment les mêmes mots. Donc la différence, elle n'est pas dans l'appel que Dieu adresse à Jonas, mais elle est dans la réponse que Jonas fait à l'appel de Dieu. Si on regarde la réponse que Jonas fait au premier appel, il nous est dit au chapitre 1, verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. » Par contre, la réponse au second appel que Dieu formule à l'égard de Jonas, c'est chapitre 3, verset 3, « Et Jonas se lava, se lava aussi parce qu'il est sorti du grand poisson, mais il se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. » Un même appel, mais deux réponses différentes, vous voyez, qui ne se ressemblent pas. On pourrait se dire que Dieu n'a pas vraiment laissé Jonas libre parce qu'il lui a couru après. Et peut-être on pourrait dire, mais il lui a pas laissé le choix. Mais au contraire, bien au contraire, Jonas garde la liberté de donner la réponse qu'il veut à Dieu. Dieu ramène Jonas exactement au même point pour le laisser libre de choisir. Il aurait pu susciter un autre prophète, il aurait pu aller prendre un autre porte-parole, un autre représentant, quelqu'un qui aurait annoncé sa parole, mais il reste fidèle au choix qu'il a fait d'envoyer Jonas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'intégrer, de bien comprendre. Parce que souvent, la foi, par nos contemporains, dans le monde dans lequel nous vivons, elle est considérée comme étant contradictoire avec la liberté. Pourquoi ? Parce que la foi, elle est associée à la religion, dans la tête de la plupart des gens qui nous entourent, parce que la religion, dans notre pays, sur notre continent d'ailleurs, quel que soit l'arrière-plan, que ce soit catholique ou protestant, la religion, elle a longtemps dominé les consciences. Il fallait, pendant des siècles et des siècles, il fallait que toute la population adopte la même religion que le roi. C'était obligatoire. Donc forcément, ça a créé des traditions, ça a créé des coutumes. Et on associe foi à religion et à brider la liberté. On a gardé l'image d'un Dieu qui oblige à soumettre à sa volonté, à sa morale, à ses règles, à ses commandements. Mais la Bible nous présente un Dieu très différent, qui nous laisse libres de nos choix, qui laisse les êtres humains libre de leur choix. Il nous court après, comme il l'a fait avec Jonas, parce qu'il nous aime. Il nous court après parce que, comme quelqu'un qui est amoureux va courir après la personne qu'il aime. Eh bien oui, Dieu, il nous aime tellement qu'il nous court après, comme il a couru après Jonas, mais il nous laisse toujours libre de la réponse à lui donner. Et on reproche souvent aux christianistes de limiter notre potentiel. Que la foi ne va pas présider à notre épanouissement parce qu'elle nous impose quelque chose que l'on doit croire. Et ça, c'est ça qui bride notre liberté. Et on juge préférable de choisir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est ce qu'on entend. Hein. Personne ne me doit dire ce que je dois croire. Personne ne va me dire ce que je dois penser, ce que je dois faire. Je suis libre de faire les choix qui me permettront de manifester mon potentiel, qui me permettront de m'épanouir, d'assurer l'épanouissement de ma personne. Quand on y réfléchit bien, et si on veut regarder les choses de près, en réalité, la liberté, ce n'est pas l'absence de limites et de contraintes. Et même, ce sont souvent les limites et les contraintes qui nous permettent d'être libres. Je vais m'expliquer. On est en train de vivre une compétition planétaire en ce moment. On a des pays, au travers de leur équipe de football, qui s'affrontent et ils ont tous un objectif, c'est la Coupe. On saura ce soir qui sera champion du monde pour les quatre prochaines années dans le domaine du football. Mais tous ces joueurs qui sont à un niveau exceptionnel, tous ces joueurs-là qui accomplissent des prouesses extraordinaires, techniques sur le terrain de football, les Mbappé, et tous les autres. S'ils sont si bons sur le terrain, ce n'est pas parce que eux, ils ont choisi ce qui était bien pour eux. C'est évident. Chaque joueur, prenons Mbappé puisque vous m'en parlez, il s'astreint à des contraintes qui vont lui permettre de s'épanouir sur le terrain. Ces dernières 3 semaines, Mbappé, il n'est pas allé faire beaucoup de shopping. Il n'a pas vu sa famille tous les jours. C'est des contraintes, hein. Là, je suis sûr qu'hier soir, il ne s'est pas couché à 3h du matin ou à 4h du matin. Je suis sûr qu'au goûter, il ne va pas prendre un kebab. Ça, c'est certain. Vous voyez, il se soumet à un certain nombre de contraintes qui lui sont données par le coach, par Didier Deschamps. Et au contraire, c'est de l'entraînement à des heures fixes. C'est aller à la salle de muscu à des heures fixes. C'est avoir des temps de débriefing, des temps de briefing. Vous imaginez là toutes les vidéos de la Croatie qu'ils ont dû visionner. Donc il y a toutes ces contraintes en fait qui d'une certaine manière portent atteinte au choix de Mbappé. Parce que des fois il aimerait bien peut-être faire autre chose ou être ailleurs. Mais plus il prendra ses contraintes au sérieux et plus il sera libre sur le terrain. Parce qu'il aura la maîtrise qu'il faut dans sa tête, dans son corps, physiquement, une maîtrise qui lui permettra de faire ce qu'il veut, ou quasiment ce qu'il veut, du ballon. Donc plus il acceptera ses directives, et plus il deviendra libre. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est la même règle, la même logique qui s'applique. Croire en l'évangile, ce n'est pas restreindre sa liberté, mais c'est faire le choix d'accepter des contraintes qui vont nous rendre plus libres. Là, quand on rentre dans cette vie d'amour et que la relation qu'on a avec Dieu au travers de Jésus nous amène à aimer, on devient libre de la haine, on devient libre de l'amertume. En fait, là, ce à quoi nous nous soumettons au travers de l'évangile nous rend plus libres, plus libres. Je pense justement, quand je réfléchissais à tout ça, je pense au joueur là qui avait été sollicité par Didier Deschamps, Adrien Rabiot. Il avait été sollicité pour être suppléant de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde et il a refusé. Il a dit « Ah non, moi je ne veux pas être remplaçant, je ne veux pas être suppléant, si je viens, c'est pour être joueur, quoi. C'est pour jouer à tous les matchs et puis même à ce poste-là. » Adrien Rabiot, il a exercé sa liberté, il n'a pas voulu se soumettre aux directives du coach, mais il peut passer à côté de la victoire. Tous ceux qui ont répondu à l'appel de Didier Deschamps et qui se sont soumis à ses directives, ils vont tous participer à la victoire. Même ceux qui n'auront joué que 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes dans les prolongations, ils vont participer à la victoire. Et bien vous voyez, recevoir l'évangile, c'est recevoir une parole, recevoir des directives, mais qui ne vont pas nous emprisonner, mais qui vont nous faire rentrer dans une plus grande liberté. C'est ça l'évangile. Quand on le comprend, quand on le saisit, c'est ça. Dieu nous laisse toujours libres. Il veut collaborer avec nous. Ça commence quand on choisit Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et puis ça continue au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on écoute la voix de Dieu pour rentrer dans son plan et pour pouvoir vivre cette vie épanouissante. Jonas, il est hébreu. Il fait partie d'un pays qui a été dominé par les habitants de Ninive. C'était les Assyriens. C'est l'empire d'Assyrie, c'était l'empire le plus influent dans la région à l'époque. Et quand on y pense bien, quand on regarde les choses là comme ça, on se dit, mais quel était le pourcentage de chances de succès de Jonas, d'être entendu et d'être écouté par les habitants de Ninive? Et pourtant, son action à Ninive a un impact considérable. Là, il y a conjonction des 3 facteurs suivants qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi là, il assure sa mission. Le deuxième point qu'on va avoir ensemble, c'est Jonas a une vision. Une vision. Dieu communique une vision à Jonas. Chapitre 3, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Va à Ninive, la grande ville. Dieu envoie Jonas dans la plus grande ville de l'Empire assyrien. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette ville qu'il y a le plus de monde. Quand on lit un peu plus loin, au chapitre 4, hein, il nous est dit qu'il y avait plus de 120 000 habitants à Ninive. Plus de 120 000. C'était une ville considérable qui s'étendait sur plusieurs hectares. Et c'est donc là que Jonas pourra toucher le plus de monde possible. Dieu communique une vision à Jonas. Je vais t'envoyer dans la plus grande ville de la région pour que tu puisses toucher le plus de monde. Et ça, cette vision-là, c'est la vision que Jésus avait. Jésus, quand on lit les évangiles, on le voit, il bénit les gens. Il est béni en les guérissant, il est béni en les délivrant, il est béni en les nourrissant quand il leur donne le pain, les poissons. Mais il avait d'abord cette vision d'atteindre le plus de monde possible, d'atteindre les foules. Il voyait les personnes, mais il voyait aussi les foules. Il voyait le bien qu'il pouvait faire aux personnes, mais en faisant le bien aux personnes, ce qu'il voulait, c'était toucher le plus de monde possible. Souvenez-vous des paroles de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Verset 35, Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Donc il bénit, il répond aux besoins. Mais son cœur fut rempli de compassion pour les foules. Vous voyez, il va dans les villes, dans les villages, parce qu'il voit les foules qu'il voyait, parce qu'il voyait que ces gens étaient fatigués, ils étaient découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il avait cette vision très large et c'est cette vision-là que les premiers chrétiens, les premiers disciples avaient également. On le voit dans leur façon de faire, puisque quand ils ont annoncé l'évangile, où est-ce qu'ils allaient? C'était principalement là où il y avait du monde, dans les villes. Ça commence à Jérusalem, après il nous a dit qu'en Samarie, Philippe prêche dans une ville de la Samarie, après en Syrie, Damas, Antioche, Jopé, là où Pierre va annoncer l'évangile aussi, Lystre, Icône, Éphèse, Corinthe, Athènes et Rome. Ce sont toutes les plus grandes villes qui constituaient à ce moment-là l'Empire romain. Donc il y a vraiment cette vision de toucher le plus grand nombre. Et après, c'est quand les villes sont touchées que généralement les campagnes sont touchées. Hein, ça va dans ce sens-là, c'est ce qui s'est passé à Angers. C'est quand cette église a été implantée à Angers que les campagnes aux alentours et des familles qui étaient dans la campagne sont venues. Donc vous voyez, il y a cette vision très globale, une vision très large que Dieu communique à Jonas et qu'avait Jésus et qu'avaient aussi les premiers disciples. Et c'est bien d'avoir une vision pour nos vies. C'est bien là d'avoir la possibilité d'être béni, de voir Dieu répondre à nos besoins, de voir comme Jésus le faisait, comme les premiers disciples le faisaient. Mais c'est bien au-delà de considérer ce que Dieu peut faire pour nous bénir et pour voir à nos besoins, on est appelé à compléter cette vision personnelle par une vision plus large, qui est celle de l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Ça nous évite d'être simplement concentrés sur nous-mêmes et de ne vivre la relation avec Dieu que pour nous-mêmes. Et là, l'histoire de les évangiles, les actes nous montrent le contraire. J'aime bien, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, là, il y a une association qui s'est montée dans mon quartier, un chrétien, et bon, c'est une association d'échange de savoir, en fait, là où on met en commun des outils, voilà, puis on bricole. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin de venir réparer son vélo, il vient, et puis il y a quelqu'un qui sait réparer le vélo, qui va l'accompagner, qui va l'aider, et puis comme ça, dans plein de domaines. Donc il y avait l'idée, en fait, d'avoir cette vision dans son quartier, par exemple. Oui, Dieu me bénit, je vis des choses avec Dieu, mais ce que j'ai là, maintenant, je suis appelé à le partager. Et c'est à cette vision de bénir la ville, d'une certaine manière, ou de bénir le quartier dans lequel je suis. Donc vous voyez, c'est de pouvoir compléter en fonction de là où nous sommes, en fonction de ce que nous savons faire, en fonction de ce que là où notre cœur nous porte, de compléter cette vision personnelle sur la vision de l'environnement dans lequel nous sommes. En tant qu'Église, je crois vraiment que nous sommes appelés à partager une vision pour la ville dans laquelle nous sommes placés. Cette Église, elle est là depuis 65 ans et on a des choses à apporter. Et ça fait partie de notre mission. L'Église, elle est là, c'est sûr, pour que nous puissions grandir dans la foi. Elle est là pour que nous puissions recevoir des choses de Dieu. Elle est là pour que nous disposions notre cœur à être guéri. Elle est là à ce que nous puissions recevoir tout le bien que Dieu veut nous donner au travers de son amour. Mais cette Église, elle est là aussi pour pouvoir rayonner, pour pouvoir bénir et pour pouvoir apporter quelque chose dans cette ville. Prions pour les autorités. La Bible nous dit de prier pour les autorités. Souvent, on prie pour les autorités quand il y a les élections présidentielles. Donc, tous les 5 ans, on prie. Ou les élections municipales. Mais je pense que c'est sans doute quelque chose qu'on est appelé à faire plus régulièrement. Prendre plus conscience là, de cette vision élargie que Dieu veut nous communiquer. Servir la ville, ce qu'on a fait pendant 10 ans avec la foulée pour la vie. On verra comment les choses continueront. C'est ce qu'on fait quand on aide les étudiants qui sont dans le besoin en pourvoyant leurs besoins alimentaires, leurs besoins d'hygiène. C'est ce qu'on a fait l'année dernière en participant à la journée citoyenne. Vous vous rendez compte que maintenant, au niveau de la ville, la ville sait que les églises protestantes sont susceptibles de se mettre à disposition de la ville pour pouvoir participer à une action dans la ville, nettoyer un quartier, ou un parc, c'est ce qui avait été fait l'année dernière. Ça, c'est la vision plus large qu'on est appelé à avoir. Si on veut avoir, là, vivre des choses avec Dieu dans la ville, c'est cette vision qu'on est appelé à avoir. Donc, voyez, nous répondons et nous sommes toujours libres avec Dieu. Et en même temps, nous sommes appelés à recevoir une vision de Dieu, à nous inclure dans une vision plus large que simplement ce que Dieu veut faire et nous donner dans notre vie. Le troisième point, le troisième élément qui permet d'avoir une vie épanouie, un service épanoui, c'est la mission. Jonas entre dans la mission que Dieu lui a confiée. Si on revient au chapitre 3 et aux versets 3 et 4, cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une très grande ville, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Jonas entre dans la mission que Dieu lui a confiée. Il est appelé par Dieu à être prophète. Prophète, ça veut dire être porte-parole, être porteur d'un message. Ça, c'est son appel, c'est son ministère. Si c'est Dieu qui lui confie la mission d'être son porte-parole, et particulièrement à Ninive, puisque c'est là qu'il l'envoie, et ce n'est pas dans une autre ville, Dieu sera avec lui pour que sa mission réussisse. Ce que Dieu donne, il donne aussi la possibilité à la personne à qui il confie une mission de remplir cette mission. Et la tâche, elle paraît considérable. Vous voyez, la précision qui est donnée dans le texte, c'est que pour pouvoir faire le tour de Ninive, il fallait 3 jours de marche. Donc une ville considérable, une ville très très grande. Et ça pourrait paraître complètement impossible. Jonas, il est là, il me faut au moins trois jours. S'il faut que je m'arrête dans tous les quartiers pour proclamer le message de Dieu, c'est considérable là, ce qui m'est donné. Mais il s'y engage parce que c'est son appel. Jonas, il fit une première journée. Donc il y va. Il sait que c'est grand, mais il y va parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il rentre dans la mission que Dieu lui a donnée. Il va donc accomplir là ce qu'aucune autre personne ne pourra accomplir parce qu'il va faire ce que Dieu lui a demandé à lui. Ça aussi, c'est une notion vraiment importante à considérer. C'est important d'être animé par le sens de la mission. C'est ce sens de la mission qui nous permettra de prendre pleinement place dans l'œuvre de Dieu, à chacun. Dieu ne nous demandera jamais de faire ce qui est totalement étranger à ce que nous pouvons faire. Il nous demande de solliciter les capacités qu'il a placées en chacun d'entre nous. Lorsque Dieu nous a tissés les uns et les autres dans le ventre de notre mère, comme il est dit dans le psaume, eh bien, il a placé en nous des dons, il a placé en nous des capacités, il a placé en nous un potentiel. Votre potentiel, ce n'est pas mon potentiel. Et mon potentiel, ce n'est pas le vôtre. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et discerner, là, ces choses-là nous permettent d'entrer dans la mission que Dieu nous a confiée. Moi, j'étais sidéré la première fois que je suis allé en Israël pour pouvoir apporter des cours dans l'école biblique là-bas. J'étais sidéré de l'opposition à laquelle le directeur devait faire face, quasi quotidiennement. Ça venait de tous les coins, ça venait de partout. Quand ce n'était pas les uns, c'était les autres. Quand ce n'était pas du côté israélien ou juif, c'était du côté musulman ou palestinien. Des tracasseries administratives pas possibles, des plaintes même quelquefois, des menaces. Et je me suis dit, mais moi, j'y arriverai jamais. C'est ce que j'avais dit à Daniel en revenant. Je lui ai dit, mais enfin, si j'étais en mission là-bas, j'y arriverais pas. Il me dit, mais c'est normal, c'est pas ton appel. Je me dis, oui, c'est logique. En fait, il a demandé à cette personne, à Jacques, il l'a envoyé là-bas parce que c'est la mission qu'il lui a confiée. De la même manière qu'il a confié une mission à Jonas, il a confié cette mission pour qu'il soit le directeur de cette école biblique. Et il a donc en lui le potentiel de faire face à cette opposition, avec la grâce de Dieu, avec tout ce que Dieu donne pour le renouveler, le fortifier. Mais vous voyez, on est tous appelés à rentrer dans une responsabilité, à rentrer dans une mission. Nous sommes porteurs de ce que nous sommes vraiment, les uns et les autres. Il faut juste que nous mettions cela en œuvre. Et ça passe par discerner les choses. À quoi on aspire vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire pour servir Dieu? Ça passe par répondre aux besoins qui peuvent être autour de nous. Parce que c'est en se mettant en œuvre qu'on découvre aussi le potentiel, que ce potentiel est appelé à s'exprimer. Alors des fois, on peut prendre une piste qui n'est pas la bonne, mais ce n'est pas grave. Si on sent que ce n'est pas ça, on prend une autre piste. Mais on est appelé comme ça, en faisant aussi, à discerner les choses, en répondant aux besoins, en se mettant au service des autres. C'est en se formant également. Parce que si quelqu'un a un don pour être un musicien, s'il ne travaille jamais son instrument, ça restera un don, mais ça ne deviendra jamais un ministère, ça ne deviendra jamais un service. Donc il y a aussi cette dimension de se former, de travailler ce que Dieu a placé en nous. Et ça, ça peut être un service dans l'Église, parce qu'ici, tel que notre organisation est, effectivement, il y a des besoins auxquels c'est important de répondre, et il y a des choses qui peuvent correspondre à ce que nous avons envie de faire ou à ce qu'on peut répondre, quoi. Mais ça ne se limite pas à ça, parce que notre service, notre ministère, il peut être dans la vie de tous les jours. Il peut être dans la vie courante. Ça peut être aider ma voisine âgée à faire les courses parce qu'elle, elle n'a plus de véhicule ou parce qu'elle n'a pas la possibilité de se déplacer. Ça peut être, si je suis étudiant dans un domaine, aider l'enfant, la fille, le fils du voisin à faire ses devoirs parce que moi, j'ai le potentiel en maths pour pouvoir l'aider. Ça peut être assister financièrement quelqu'un qui est dans le besoin. Ça peut être accompagner quelqu'un administrativement parce que quelquefois, il y a tellement de paperasserie. Vous voyez, il y a toute cette dimension du service. Mais ça, on va le faire en fonction de ce que Dieu va nous mettre à cœur. Chacun d'entre vous, vous avez ce potentiel en vous. J'aime cette phrase du pasteur John Maxwell qui dit « L'une des clés du succès dans la vie est d'aimer ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime. » Il est pasteur, hein, qu'il a bien compris, il a bien assimilé cette dimension de que ce que Dieu a placé en nous, quand on l'exprime, eh ben oui, on va dans l'épanouissement. Forcément, on va dans l'épanouissement. Dieu nous donne des dons qui constituent un véritable potentiel en chacun d'entre nous. Et quand on rentre dans le plan de Dieu, quand on rentre dans la vie chrétienne, quand on rentre dans cette vie de relation avec Jésus, avec Dieu, ce potentiel, il est appelé à s'exprimer. Et puis le dernier point, c'est une proclamation. Dernier point qui préside à notre vie chrétienne épanouie, à un service épanoui, c'est une proclamation, en plus d'une vision et d'une mission, et de la liberté que nous avons à exercer ces choses. Jonas annonce la parole telle qu'elle lui a été communiquée par Dieu. Alors c'est sûr, il ne le fait pas encore de très bonne grâce parce que dans la suite du texte, on voit bien qu'il n'est pas très heureux de voir les Ninivites regretter leur vie et entendre la parole. Mais il se trouve quand même que les habitants de Ninive, même si Jonas il n'est pas hyper motivé, sont quand même sensibles à la parole. Pourquoi est-ce qu'ils sont sensibles à la parole? Parce que cette parole, elle proclame la vérité. La prédication de Jonas, parce qu'elle est proclamation de la parole de Dieu, produit un effet qui dépasse Jonas lui-même. Ça aussi, c'est vraiment intéressant de prendre ça en considération, parce que les habitants de Ninive, ils sont empêtrés dans le mal, ils sont empêtrés dans la violence, mais ils sont percutés par la vérité qui les conduit à admettre leur situation. C'est ce qu'on lit dans la suite du texte, à partir du verset 5. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner, et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des sacs. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétail de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts de sacs. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises voies et à la violence qui colle à ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises voies. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Voilà le résultat. Voilà ce qui se passe quand on se laisse percuter par la parole de Dieu. La conscience des Ninivites est éveillée par la vérité. Souvenez-vous de comment l'auteur de la lettre aux Hébreux présente la parole. C'est au chapitre 4 et au verset 12. Elle est comparée à une épée, la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace. La vie est transmise par la parole de Dieu. Et parce que la vie là va percuter, eh bien, il y a une efficacité. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants aiguisés sur les deux côtés. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, au plus profond là, de notre être intérieur. Jointure et moelle, elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Les habitants de Ninive se sont laissés percuter, se sont laissés couper par cette parole. Ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Et tous les rites qu'ils observent, le jeûne, se revêtir de sacs, s'asseoir sur la cendre, tout ça, ça traduit ce qui se passe dans leur cœur. Et pourtant, le message paraît sévère. Si là, dans 40 jours, vous ne changez pas vos voies, la ville va être détruite. Ça fait penser à Sodome et Gomorre. Hein, c'est
message, il est plutôt sévère. Mais même si c'est le châtiment qui est mis en avant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et l'histoire de Jonas nous montre quelle est véritablement la volonté et le désir de Dieu. Ce qu'il veut d'abord, c'est que le message produise la repentance. Dieu veut communiquer la vie. Fondamentalement, il est la vie, donc il veut donner, il veut communiquer la vie. Ça me rappelle cette histoire, une histoire vraie, qui s'est passée au début des années 80 en Californie. La police de Californie avait déclenché un vaste plan de recherche pour retrouver une voiture volée. Mais plus que la voiture volée, ce que la police voulait retrouver, c'était le voleur lui-même, le voleur qui conduisait la voiture, qui était au volant de la voiture. Donc ils ont fait des appels à témoins, ils ont fait des barrages pour pouvoir retrouver le conducteur. Et ils ont même fait passer des messages sur les radios locales pour pouvoir rentrer en contact avec le conducteur, pour là, s'il avait l'autoradio ouvert, pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Alors on se dit, mais pourquoi tout ce déploiement d'énergie pour contacter le conducteur? Parce que la voiture, elle appartenait pas à un homme politique, ou on pourrait penser, hein. Non, c'était... Pourquoi est-ce qu'ils avaient mis autant d'énergie? C'est parce que dans cette voiture, sur le siège passager, il y avait une boîte de gâteaux. Et ces gâteaux, ils avaient été enduits par le propriétaire de la voiture de poison pour servir d'appât aux rats qui se baladaient dans son jardin. Donc c'était ça. Ils voulaient absolument entrer en contact avec le conducteur pour dire « mais ne mangez pas, parce que le gars il est en train de conduire, alors là, j'ai une belle voiture, en plus, bonus, cerise sur les gâteaux, j'ai des gâteaux justement. » Et il était en danger de mort, il était carrément en danger de mort. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir que la police, elle était plus motivée de sauver la vie du voleur que de punir le voleur. Et Dieu ne veut pas d'abord nous punir, il veut d'abord nous sauver. Dieu ne veut pas nous faire mourir, il veut d'abord nous faire vivre. C'est ça ce qui motive Dieu. Et le message de Jonas, il traduit ça. C'est ce qui nous conduit à nous laisser percuter par la parole et à nous repentir. Dieu veut entrer en communication avec nous, Dieu veut nous parler, déjà avant quand on ne le connaît pas, mais même après quand on le connaît et qu'on marche avec lui, Dieu veut nous parler pour nous sauver, pour nous communiquer la vie, pour que la vie continue de venir en nous. Le mot repentance, il est un peu piégé ce mot-là, comme les mots conversion, à cause de sa connotation très religieuse, encore une fois. Et on a tellement allergique, surtout en France, à tout ce qui évoque la religion. Et même des fois, la repentance, elle est confondue avec la pénitence, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est avouer ses fautes et se soumettre à des rites, réciter des prières, accomplir des œuvres pour obtenir le pardon. C'est ça la pénitence. La repentance, ça n'a rien à voir avec ça. La repentance, fondamentalement, la repentance, c'est quoi? C'est la capacité de se remettre en cause. La repentance, c'est la capacité de se remettre en cause. Et pour se remettre en cause, il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vérité. Accepter la vérité sur Dieu. Souvenez-vous, quelle était l'image qu'on avait de Dieu avant qu'on reçoive l'évangile et qu'on comprenne l'évangile? Quelle image on avait de Dieu? Peut-être ce Dieu sévère, ce Dieu qui nous laissait nous débrouiller, nous empêtrer dans nos problèmes. On n'avait pas forcément cette image d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de pardon, plutôt d'un Dieu qui condamne. Et quand on réalise vraiment qui est Dieu, quand on a vraiment saisi qui il était, ça nous conduit à demander pardon d'avoir eu une vision fausse de lui. Dire « Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai pensé à ton propos ?» Ça nous conduit à demander pardon de l'avoir ignoré. Ça nous conduit à demander pardon de s'être moqué de lui, quelquefois, d'avoir été ironique à son égard. Ça nous conduit à demander pardon de ne pas avoir pris en compte sa volonté et d'avoir commis le mal, parce que d'un seul coup, les choses s'éclairent, la parole nous percute, on discerne beaucoup plus nettement ce qui est bien, ce qui est mal, et on voit la proportion des choses mauvaises que nous avons pu accomplir, peut-être dans l'ignorance, peut-être volontairement, mais quand on est éclairé par la parole, on dit « Seigneur, pardon, je regrette, je pute ça dans ma vie ». Mais il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Si la vérité vient nous éclairer, on remet en cause ça. Ça veut dire accepter la vérité sur Dieu, mais ça veut dire aussi accepter la vérité sur nous-mêmes. Il n'y aura absolument aucun épanouissement possible dans notre vie, dans notre engagement, dans notre service, si notre vie chrétienne ne repose pas sur une véritable prise de conscience de ce que nous sommes. On dit qu'on est sauvé, mais il faut comprendre de quoi on est sauvé. La joie vraiment la profonde et la louange, elle vient de nos cœurs quand on voit pourquoi on est sauvé et à quoi on échappe. On échappe à ce qui était annoncé là par Jonas à Ninive. Le roi ordonne un jeûne collectif pour que tous les habitants de Ninive renoncent à leur mauvaise voie et à leurs actes de violence. C'est la précision qui est donnée au verset 8 hein, du chapitre 3. Que chacun renonce à ses mauvaises voies et à la violence. Le mot là qui est traduit par voie, c'est le mot derek en hébreu, et ça peut être traduit par habitude. Que chacun se détourne de ses mauvaises habitudes. Que chacun se détourne de ce qu'il avait l'habitude de penser, de faire. Sans remise en cause, sans repentance, on garde nos mauvaises manières de penser et nos mauvaises manières de nous comporter. Et nos mauvaises habitudes, elles sont liées à la violence, en fait. Deux choses sont indissociables. Parce que quand on reste dans notre manière de penser, dans notre manière de se comporter, ça se traduit par des actes de violence dans notre entourage. Que croyez-vous qui se passe autour de nous quand on n'admet jamais ses torts? Quand on reste constamment sur la même ligne? C'est violent. Que croyez-vous qui se passe autour de nous, auprès des gens que nous fréquentons, dans notre travail, dans notre famille, dans notre quartier, quand on considère systématiquement que les problèmes, c'est les autres? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez avoir comme impact, ou que pensons-nous avoir comme impact autour de nous quand nous justifions constamment nos propos, nous justifions constamment notre manière de penser, nous justifions constamment nos comportements? Qu'est-ce qui se passe autour de nous quand on ne s'excuse jamais? Qu'est-ce qui se passe autour de nous, au plus profond des gens qui nous entourent, quand on a toujours réponse à tout? On a toujours une bonne explication à donner à des situations qui ne sont pas normales. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, auprès des gens que nous fréquentons, que nous avons l'habitude de fréquenter, quand on a laissé notre cœur se remplir d'amertume et qu'on jette notre dépit à la face des autres? C'est violent. C'est violent. Et quand on ne se repent pas, ben on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on reste prisonnier de nos habitudes. On reste prisonnier de nos manières de penser et on reste prisonnier de nos comportements. Et on s'emprisonne, en fait, dans ces choses. Le roi revêt un sac, il s'assoit dans la cendre. Le roi, il se dépouille de sa dignité. Il était vêtu d'un manteau royal qui était constitué sans doute des tissus les plus précieux qu'il y avait à l'époque. Et il descend de son trône pour s'asseoir dans la cendre. Il pourrait très bien se réfugier derrière sa fonction qui lui permet normalement de tout contrôler. Là, il voit le peuple qui jeûne et qui implore Dieu. Et il aurait pu dire, moi, je n'ai pas donné d'ordre, hein, c'est à moi de donner l'ordre. Généralement, les rois, c'était aussi les chefs religieux. Mais non, en fait, il se laisse toucher et lui-même, il s'inclut. Il s'inclut dans ce qui est en train de se passer. Donc, il ne se réfugie pas derrière sa fonction qui lui permet normalement de tout contrôler. Et c'est parlant parce que la repentance, elle nous ramène à ce que nous sommes vraiment. Derrière le manteau royal, il y a un homme, il y a un être humain avec ses faiblesses. Et la parole, elle nous amène à ce que nous sommes vraiment. Elle nous conduit à abandonner toute prétention humaine, à accepter de confesser, de remettre entre les mains de Dieu ce que nous désirons contrôler par-dessus tout. Ce qu'on n'a des fois pas envie de voir, ce qui nous gêne en nous. Et que les autres voient, et qu'à quelquefois ils en payent le prix. Mais sans repentance, on est tous d'accord, sans repentance, la vie chrétienne ne peut pas commencer. Mais sans repentance, la vie chrétienne ne peut pas continuer non plus. C'est un travail perpétuel à faire, à accomplir pour chacun d'entre nous. Et je partage ça avec vous parce que je suis certain qu'il y a des blocages dans nos vies qui sont liés à ce manque de lucidité. Il y a des trucs, des situations qui sont bloquées parce qu'il y a ce manque de remise en cause, ce manque de repentance. Et je suis certain que si nous nous laissons toucher par la parole, si nous nous laissons interpeller là où nous avons besoin de l'aide, si nous nous laissons éclairer, si nous laissons la lumière, vous savez, c'est ce que Jésus dit, quand la lumière vient, elle éclaire les ténèbres, mais les ténèbres n'aiment pas ça. Souvent ça, on se dit, oui, voilà, quand on annonce l'évangile, il y a des gens, ils ne veulent pas recevoir l'évangile, ils préfèrent être dans leur mal, dans le péché. Mais nous, sincèrement, hein, faisons comme le roi, dépouillons-nous. Il y a des choses, on n'a pas envie de les voir. Il y a les coins de ténèbres qui restent dans nos cœurs. Et la lumière, quand elle arrive, on devrait fermer les yeux pour rester. dans notre obscurité. Et on pense qu'on va rester libre comme ça, libre de continuer de faire les choses comme on l'entend, libre de continuer d'être violent à l'égard de notre entourage, à travers nos comportements, de nos paroles. Mais pour être véritablement libre, il faut que la lumière vienne. Il faut qu'on se laisse éclairer. Vous comme moi, j'ai besoin, moi, d'être éclairé. J'ai besoin, là, d'être mis face à tout ce qui me limite encore. Et ça, cet évangile-là, je veux l'entendre. Je veux que cette parole, elle ait cet effet-là. Elle soit comme une épée qui va trancher, qui va aller au cœur de mon être afin de pouvoir dépasser ces choses et entrer dans une plus grande liberté encore. J'aimerais que ce soit notre prière ensemble. Dieu a des plans magnifiques pour chacun d'entre nous. On va demander au Seigneur qui nous aide à discerner toutes ces choses. Que le Seigneur soit avec nous ce matin, qui nous parle au travers de sa parole, qu'elle soit vivante et efficace, qu'elle nous percute, afin que nous soyons libres, totalement libres. Ouvrons notre cœur devant le Seigneur. J'aurais prié pour tous ceux qui considèrent que l'Évangile va brider leur liberté et qui peut-être là cheminent, qui entendent l'Évangile, mais qui se disent, si je fais ce pas-là, ça y est, c'est terminé. Je vais être embrigadé, ma liberté va être bridée. Et que vraiment le Saint-Esprit puisse venir et parler et dire, non, c'est maintenant, si tu fais ce choix, tu vas entrer dans la vraie liberté. Tu vas être libéré de ces mauvaises habitudes. Tu vas être libéré de tous les réflexes que tu as accumulés dans ta vie. Tu vas pouvoir entrer dans quelque chose qui va te donner ton épanouissement, ta véritable liberté. J'aurais prié pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions une vision qui soit beaucoup plus large que notre être. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous accomplis en nous. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta guérison. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Merci Seigneur Dieu parce que nous pouvons compter à chaque moment sur toi et dans ta fidélité. Tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas avoir une vision qui soit simplement centrée sur nous-mêmes. Aide-nous à voir notre environnement. Aide-nous à avoir cette vision beaucoup plus élargie. Et aide-nous, s'il te plaît, en tant qu'Église, à adopter une vision pour notre ville. Que Seigneur, là, nous ne puissions pas être passifs dans ce domaine, mais les gens de la ville nous attendent maintenant. Ils nous attendent dans des domaines sur lesquels nous avons besoin de nous mobiliser. Et parce que, Seigneur Dieu, nous sommes ainsi des témoins de l'œuvre que tu as accomplie en nous, des témoins de la compassion que tu as déplacée dans nos cœurs pour les malades, pour ceux qui sont dans la nécessité. Pour cette ville, pour ce qu'il y a à accomplir, Seigneur. Donne-nous de pouvoir librement entrer dans cette vision-là, Seigneur, s'il te plaît. Unis-nous ce matin, unis-nous dans la prière, unis-nous dans nos actions, afin que nous puissions avoir cette vision élargie pour bénir la ville dans laquelle tu nous as placés. Le prophète Jérémie disait, priez pour le bien, priez pour la paix de la ville dans laquelle vous êtes, et c'est ce que nous voulons faire pour Angers. Alors nous prenons cet instant, nous prenons ces quelques minutes, ces quelques secondes pour te demander ta grâce et ta bénédiction sur la ville d'Angers, Seigneur. Ta grâce et ta bénédiction sur les autorités, sur les gens qui sont en situation de responsabilité dans cette ville. Nous ne voulons pas la vivre de manière indifférente par rapport à eux, mais nous avons une responsabilité, nous qui sommes en connexion avec toi, c'est de te réclamer ta grâce et ta bénédiction sur eux, Seigneur, parce que nous sommes conscients aussi que la paix de cette ville, elle apportera la paix pour nous, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons de nous réunir, la liberté que nous avons dimanche après dimanche et régulièrement de nous réunir, Seigneur. Et c'est un bien tellement précieux et nous te bénissons de pouvoir vivre ces choses. Alors donne-nous d'entrer dans cette vision, Seigneur. Je te demande, et je veux m'associer à la prière de tous ceux qui te demandent, Seigneur, montre-moi quelle est ma mission. Montre-moi dans quelle mission je dois entrer. Montre-moi ce que tu veux me confier. Afin, Seigneur, que je puisse accomplir ce que tu me demandes et entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses déposer quelque chose dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mes amis qui sont présents ce matin et qui s'attendent à toi, qu'ils puissent discerner quel est leur potentiel. Je veux dénoncer toutes les paroles de mensonges qui disent que tu n'as aucun potentiel. Tu ne peux rien ou tu ne peux plus rien. Ce n'est pas la vérité parce que Dieu, en nous créant, Dieu, en nous faisant naître, a déposé ce potentiel en nous. Et lorsqu'il est activé par le Saint-Esprit, il peut en jaillir des choses extraordinaires et magnifiques. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont engagés dans cette église. Merci pour tous ceux qui sont engagés au ménage, à la technique. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont engagés dans le social, Seigneur Dieu, et dans tous les autres domaines. Merci pour ceux qui sont engagés auprès des jeunes, auprès des enfants, à la garderie, Seigneur. Sois béni pour toutes ces choses. Merci pour ceux qui sont engagés dans l'entretien de ces locaux, Seigneur Dieu. Et je te remercie, Seigneur Dieu, que vraiment vraiment tout cela puisse fonctionner. Je te remercie aussi pour tous ceux qui sont auprès de leurs prochains. Là, dans leur quartier, dans leur immeuble, auprès des gens qu'ils aident aussi, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, ils accomplissent ce service et ils entrent dans ce que tu leur as confié. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions entrer dans la mission que tu nous donnes aux uns et aux autres. Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces choses-là, Seigneur, mais que nous puissions le vivre pleinement. Seigneur, nous voulons tous nous laisser toucher par ta parole. Seigneur, c'est peut-être le plus dur de ce que nous avons à te demander.